encore aujourd'hui et puis demain, dans cette, la grâce de cette retraite. Alors on va poursuivre. Et ce soir, mais en fait nous sommes samedi, et je voudrais nous aider à, même si on est déjà à la fin de la journée de samedi, à découvrir quelque chose de la grâce du samedi aussi. Comme avant-hier, nous découvrions une des grâces du jeudi. Mais aujourd'hui, une grâce du samedi. Je dirais la Vierge Marie nous éduque à une des grâces du samedi qui est l'attente patiente et confiante de la résurrection. L'attente patiente et confiante de la résurrection. Vous savez, peut-être qu'il y en a parmi nous qui connaissent le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et j'aime beaucoup. Et il y a 12 ans maintenant, pour le jubilé des 150 ans, le sanctuaire s'est équipé, pour le dire comme ça, d'un chemin de croix pour les malades, un nouveau chemin de croix, parce qu'il y en avait déjà un qui était un petit peu petit peut-être, mais il s'est équipé à ce moment-là d'un nouveau chemin de croix pour les malades, des stations sculptées dans du marbre blanc, marbre de Carrare, et qui en tout cas jusqu'il y a 3 ans se trouvaient de l'autre côté du Gave, par rapport à la grotte et au bout de la prairie. Je ne suis plus allé à Lourdes depuis 3 ans. Je ne sais pas s'il a bougé ou pas, puisqu'il y a quand même beaucoup de modifications dans les aménagements du lieu à Lourdes ces dernières années. Mais c'est le seul chemin de croix que je connaisse. Évidemment, je ne les connais pas tous. Hein. Mais c'est le seul chemin de croix que je connaisse où il y a 17 stations. Ce chemin de croix pour les malades à Lourdes. La 14e station, ben comme dans tous les chemins de croix, la mise au tombeau du Christ. La 15e station, précisément, Marie dans l'attente de la résurrection. Vous voyez ? Marie dans l'attente de la résurrection. C'est donc entre le Vendredi Saint et le matin de Pâques. C'est donc aujourd'hui. Marie dans l'attente de la résurrection. 15e station de ce chemin de croix. 16e station, la résurrection. Et 17e station, le ressuscité qui apparaît aux disciples d'Emmaüs. Voilà. C'est merveilleux. Mais voyez, la liturgie, quand nous sommes dans un temps ordinaire, hein, et qu'il n'y a pas une fête particulière, la liturgie nous invite à mettre à l'honneur la Vierge Marie le samedi, précisément pour honorer cette grande dame dans l'attente de la résurrection. Marie reste la femme debout le samedi saint, voyez, elle reste la femme debout. L'attente, attendre, l'attente patiente, patiente et confiante de la résurrection. Si un jour vous allez à Lourdes, ce chemin de croix, il n'est pas réservé aux malades. Il leur est accessible. Il est donc disponible pour tous. Eh bien, poussez le nez jusque-là pour goûter et découvrir. En plus, les sculptures sont splendides. Voilà. Et voyez, Marie est debout dans l'attente de la résurrection et elle était la veille au pied de la croix de son fils. Elle a reçu sur ses genoux le corps de son fils qu'on a descendu de la croix. La croix de la mort, Hein? La croix du vendredi saint semble comme l'avoir emporté sur la vie du Christ d'une certaine manière. Si nous regardons seulement là ce qui se vit le vendredi saint, la croix de la mort semble l'avoir emporté sur la vie du Christ. Mais Jésus avait annoncé ce moment du vendredi, ce moment où il serait sur la croix. Il avait annoncé ce moment où il allait mourir. Hein? Il l'avait annoncé non comme une fin, mais comme un passage entre sa vie sur terre dans la condition que nous connaissons et sa résurrection. Voyez. Et ça, il ne nous faut pas l'oublier. Jésus a annoncé à ses disciples sa passion d'amour pour l'être humain, on se l'est remis sous les yeux un peu au fil de la semaine, mais aussi sa passion de souffrance. Et sa résurrection le troisième jour. Les disciples étaient avertis de cela. Je lis une de ces annonces de la passion et résurrection dans l'évangile de Luc. La troisième de l'évangile de Luc, troisième puisqu'il a annoncé à trois reprises sa passion et sa résurrection, au chapitre donc Luc 18. Prenant les douze avec lui, Luc 18, verset 31, prenant les douze avec lui, Jésus leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem et que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. » Là, cette fois-ci, c'est Jésus lui-même qui fait un pont avec l'Ancien Testament en parlant à ses disciples. « Et voici que va s'accomplir tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. » Car, et voilà l'annonce de la passion, de souffrance et de résurrection, car il sera livré aux païens, soumis aux moqueries, aux outrages, aux crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus a toujours annoncé sa résurrection quand il annonçait sa passion. Mais eux n'y comprirent rien. Cette parole leur demeurait cachée et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Une des annonces de la passion. Voyez, la croix du vendredi saint va devenir passage et non fin. Non finalité. Et Marie, elle a tout ça clairement en elle. Et elle a accueilli d'être présente debout au pied de la croix de son fils. Auprès de la mort de son fils, sachant que cette mort n'est pas une finalité et qu'il y a cette résurrection. Alors Marie demeure samedi confiante, patiente et debout. Il faut lui demander ça à la Vierge Marie. quand nous sommes devant la croix, la nôtre ou celle d'autrui. Voilà de pouvoir non pas fuir cette croix comme tant de solutions le permettraient, mais de pouvoir accompagner cette croix jusqu'au bout. Accompagner. Et puis, garder cette confiance patiente d'une résurrection. C'est pas rien. Alors, voyez, je voudrais vous parler un peu aujourd'hui, mais d'une manière pour ajuster notre regard par rapport à la croix, puisqu'entre le vendredi et le matin de Pâques, ben c'est finalement cette réalité-là aussi, et la mort. Voilà. Et donc aussi la réalité de la souffrance, d'une certaine manière. Avec le regard de Marie, comme je viens de le dire, qui accompagne jusqu'au bout, qui reste debout, et figurez-vous, du haut de la croix, Jésus nous l'a donné pour mère. Pour mère, je développe pas, mais ça veut dire que Jésus a voulu que nous ayons la même maman que lui. C'est pas rien. Que ses disciples aient la même maman que lui. Il en a expérimenté le bienfait de cette maman qu'il a accompagnée jusqu'au bout de la croix, restant debout. Voilà. Alors il nous donne sa mère pour mère. Alors, elle a à nous enseigner comme une maman qui éduque son enfant. Elle a à nous enseigner aussi la manière de pouvoir faire face à la croix quand elle est là, quand elle est là, quand elle est là. Faut pas la chercher. Oh non, faut pas la chercher. Faut pas la chercher, la croix. Vous savez, Marthe Robin, elle vivait, je passe un petit moment là avec Marthe Robin, hein, elle vivait, elle a été malade toute sa vie. Elle est restée 50 ans alitée, plus de 50 ans dans son lit. Elle souffrait, elle a guéri de sa maladie. Et Marthe Robin, elle disait aussi ceci, ne cherchons pas la souffrance. Hein? Parce qu'il y a parfois eu peut-être des déviations. Hein? Plus on souffre, plus on gagne son ciel, plus je ne sais pas tout quoi. Hein? C'est quoi ça? Alors c'est beau que cette femme qui a souffert, qui a vécu cette maladie, qui a vécu une grande communion avec le Christ, particulière, nous disent aussi, c'est une femme, hein, c'est pas parole d'évangile, pas parce que c'est une femme, ce serait un homme, ce serait pareil, mais je veux dire, c'est pas Dieu qui parle, c'est pas Jésus, c'est Marthe Robin, ne cherchons pas la souffrance, mais quand elle se présente, voyez. Alors là, je sais plus si elle dit avec Marie et avec Jésus, ou comme Marie et comme Jésus, je ne sais plus. Pardonnez-moi, mais l'un ou l'autre, soit avec, soit comme, Marie et Jésus, portons-la vaillamment. Voilà, portons-la vaillamment. Ça veut dire que si Marthe a dit cela, c'est qu'elle a dû expérimenter que avec Jésus, avec Marie, comme Jésus, comme Marie, je ne sais plus, mais il y a quelque chose qui peut être porté vaillamment, même au-delà de nos forces, d'une certaine manière. Voilà. Alors, la croix, sous un autre angle, un autre regard que celui que nous avons peut-être spontanément. Je reviens à Lourdes. En 2010, il y a exactement 10 ans, les sanctuaires de Lourdes, qui accueillent plusieurs millions de pèlerins par an, chaque année, établissent un thème pastoral qui va guider un peu la manière d'accueillir tous les pèlerins qui viendront sur cette année à Lourdes. Et le thème pastoral que l'équipe des sanctuaires avait choisi pour accueillir tous les pèlerins qui viendraient en 2010 à Lourdes était le suivant: le signe de la croix avec Bernadette. Le signe de la croix avec Bernadette. Voilà. On va se dire, mais comment est-ce qu'on peut accueillir des pèlerins? Moi, je vais vous en parler pendant une heure, mais accueillir tout un pèlerinage sur le signe de la croix. Ben oui, c'est pas rien. Le signe de la croix avec Bernadette. Vous savez ou non que en 1858, quand la Vierge Marie apparaît pour la première fois à Bernadette, elle était là avec deux autres jeunes, et ils étaient en train de chercher du bois et des eaux, là, parce que c'était des familles pauvres. La Sainte Vierge n'est pas apparue dans un hôtel 4 étoiles à Bernadette, hein, elle est apparue dans la grotte aux cochons. Voilà, hein. Maintenant, il y a de la pierre bleue par terre, mais à l'époque, c'était la grotte aux cochons. La grotte à Massabielle, là. Grotte aux cochons. Et puis, alors, quand Bernadette, qui avait de l'asthme, et donc pendant que ses deux compagnes sont passées le petit ruisseau qu'il y avait, ben elle était restée de l'autre côté par sa santé fragile, et donc tandis que les deux autres sont dans la grotte, elle un peu à distance voit dans cette niche de la grotte, c'est pas beau une niche, on pense aux chiens, hein, elle voit là une la dame. Elle n'a jamais dit qu'elle voyait la Sainte Vierge, la dame. Et alors, elle fut toute angoissée, quelque part, on peut comprendre. Hein. Son réflexe allait porter et prendre dans sa poche son chapelet qu'elle avait toujours avec elle, parce que quand elle avait des crises d'asthme et qu'elle était angoissée, elle prenait ce chapelet qui lui apportait quelque chose d'apaisant. Voyez. Et alors, elle veut faire le signe de la croix, justement. Le signe de la croix. Elle ne put pas le faire. Bernadette n'a su faire le signe de croix que lorsque la dame l'a fait elle-même. Alors elle a pu le faire. La première chose que la Sainte Vierge apprend à Bernadette à Lourdes, c'est de faire le signe de la croix. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important, ce signe. Très important. Voyez. Je lis ce que Bernadette dit elle-même. Moi, je vous ai raconté en deux mots. Elle le raconte en trois mots qui sont les siens, donc c'est encore mieux. Je levai les yeux. En regardant vers la grotte, je vis une dame habillée de blanc. Elle avait une robe blanche, un voile blanc, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Je croyais me tromper. Je me frottais les yeux. Je regardais encore et je vis toujours la même dame. Alors je portai la main à la poche pour prendre mon chapelet. Je voulais faire le signe de la croix, je ne pus pas, ma main tomba. Alors je fus un peu saisi de frayeur. Cependant, je ne m'en fus pas. La vision fit le signe de la croix. J'essayai moi aussi de le refaire, alors je pus. Et dès que je l'eus fait, je fus tranquille. Ayant toujours cette dame devant les yeux. Voilà. Voyez, Bernadette dit « Dès que je l'eus fait, je fus tranquille. » L'effet du signe de la croix sur Bernadette à ce moment-là, c'est de lui apporter une tranquillité. Cela veut dire que le signe de la croix a un effet. Voyez ? Parce que être tranquille, c'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose. On est tranquille ou on ne l'est pas. On a la paix ou on ne l'a pas. C'est pas une réflexion. Le signe de la croix a un effet. Ça veut dire qu'il a en lui-même une puissance. Voyez ? Il a en lui-même une puissance. Alors si la Vierge apprend Bernadette à faire ce signe, c'est que c'est fondamental. Si la croix est un signe, et on dit que nous nous marquons du signe de la croix, hein? Alors, on peut se poser la question de quoi la croix est-elle le signe? De quoi la croix est-elle le signe? On pourrait dire, et c'est vrai, que la croix est le signe de ce qu'il y a de plus infâme, de ce qu'il y a d'un instrument de torture le plus infâme qu'il puisse être, signe par lequel on va supprimer son semblable. Il n'y a rien de plus infâme quand même, hein? Et c'est vrai. Quand nous regardons la croix, maintenant, comme chrétien, avec ce qui s'y est vécu, avec le Christ, quand nous regardons maintenant la croix, avec ce qui s'y est vécu avec le Christ, cette croix devient signe aussi d'autres choses. Cette croix devient signe d'une part de non-violence, ce qui est paradoxal, puisqu'elle est le signe de la violence. Là, avec ce qui s'y est vécu avec le Christ, elle devient signe, d'une certaine manière, de non-violence. Le Christ s'étant laissé conduire comme un agneau que l'on mène à l'abattoir. Vous avez déjà vu un agneau violent? Elle devient le signe de non-violence parce qu'elle devient le signe d'une rupture de la violence. Voyez? Elle devient le signe d'une rupture de la violence par ce qui s'y est vécu avec le Christ, conduit à l'abattoir de la croix, tel un agneau. Le Christ a vécu ce chemin de façon non violente. Elle devient aussi, avec ce qui s'y est vécu avec le Christ, le signe de l'amour qui est donné. J'en ai beaucoup parlé pendant cette retraite. L'amour qui est donné dans le sens assumé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Rappelez-vous, jeudi soir, pour ceux qui étaient là, au moment du lavement des pieds, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Alors que le démon avait déjà jeté dans le cœur de Judas Iscariote la pensée de le livrer, etc., etc., etc. Devient le signe de l'amour donné, assumé, vécu, jusqu'au bout. Et en même temps, voyez, pour découvrir comme chrétien de quoi la croix est le signe, nous sommes obligés, parce que c'est indissociable, de la regarder, cette croix, à la lumière de la résurrection, c'est-à-dire du tombeau vide. C'est la seule manière dont nous pouvons approcher cette réalité de ce dont la croix est signe pour le chrétien. C'est indissociable de regarder en même temps la résurrection. Et je ne fais que répéter avec mes mots ce que Jésus nous a dit au début de cet enseignement quand j'ai repris cette annonce de la passion. On va lui cracher dessus, on va lui le flageller, il va mourir, oui, la croix, sur la croix. Et le troisième jour, ressuscité. Quand Jésus travaille en amont le cœur de ses disciples pour les préparer à cette réalité-là aussi qu'ils auront à vivre, déjà il leur dit, quand vous regarderez cette croix, gardez un de vos deux yeux sur le matin de la résurrection qui pointe. Voyez ? Il leur a annoncé à trois reprises. C'est pas pour rien. Déjà là, il dit à tous ses disciples et à nous aussi aujourd'hui, quand tu es confronté à la réalité de la croix, la manière ajustée de l'accueillir, c'est d'avoir, et nous avons deux yeux, on est pas mal fait, hein, c'est d'avoir un œil en effet sur cette réalité-là. Elle est bien réelle, cette réalité-là. Il ne faut pas, voilà, la nier. Et en même temps, un œil sur le tombeau ouvert du matin de Pâques. Demain, j'ai la joie de vous parler de la résurrection. Ah ben, ce sera dimanche. Fantastique. Aujourd'hui, on est entre, voilà, entre les deux. Et puis, c'est bon parce que ça nous rejoint dans tous nos chemins de vie aussi, quelque part. Tous des croix n'ont choisi des chemins à certains moments plus douloureux. Cette lumière de la résurrection, voilà, à laquelle, voilà, prend toute la dimension de la croix qui est bien réelle, que Jésus soit mort, que Jésus a souffert, c'est pas une vue de l'esprit, c'est bien réel, mais c'est passage. C'est passage. Et la mort n'est pas le dernier mot de la vie du Christ. C'est l'enjeu de regarder la résurrection. Et voyez, c'est si important de nous le rappeler au cours d'une retraite, parce que les disciples, ils avaient beau avoir entendu ça, quand ils se sont retrouvés avec la croix, eh bien, ils sont devenus amnésiques du côté résurrection, bien souvent. À commencer par ceux que j'ai cités tout à l'heure, par exemple, les disciples d'Emmaüs. Le Seigneur avait annoncé à ses disciples que ça sera, voilà, ce sera un passage. Il l'avait dit comme ça, avec d'autres mots, comme je vous les ai lus maintenant. Troisième jour, il ressuscitera. Et les disciples d'Emmaüs, hop, ils restent. Il n'y a que le vendredi. Il n'y a que la croix. Cette douleur qui est très prégnante. Et à certains moments de nos vies, et je vous ai partagé pour moi lundi, dans mon chemin de vie, oui, il y a des moments où la croix fait qu'on n'entrevoit pas. Mais d'où c'est important de réaccueillir cette parole, pour qu'au moment voulu, l'Esprit Saint, le paraclet, le défenseur, notre avocat de la vie, fasse ressortir le dossier Jésus à la surface, et pour nous rappeler que, ok, essaye de garder un petit quelque chose de ton regard malgré la croix qui t'absorbe, parce qu'il y a, ce n'est pas le tout. Comme chrétien. Et voyez les disciples d'Emmaüs qui voient Jésus ressuscité arriver, ils ne le reconnaissent pas, etc. On connaît un peu l'histoire, hein, sans doute, peut-être, mais « Ah, de quoi parlez-vous en marchant ?» leur dit Jésus. « Oh, ben t'es bien seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Hein. Nous qui espérions. » Vous voyez ? Nous qui espérions. Et puis du coup, finalement, ce Jésus dans lequel on avait mis nos pas, ben, ça termine mal sur la croix. Nous qui espérions. Puis, ils sont devenus amnésiques de l'annonce de la résurrection. Alors du coup, ben, ça ne sert plus à rien de vivre. Hein. Ça ne sert plus à rien, à la limite, d'aller au bout du chemin. Ça ne sert plus à rien. Ben, c'est des sujets très d'actualité, tout ça. D'une certaine manière. Voilà. Alors, la lumière de Pâques, bien sûr, à la lumière à laquelle nous avons à contempler et à regarder la réalité de la croix, en tout cas comme chrétien, hein, c'est d'une certaine manière cette lumière de la victoire. Pâques, c'est ça, hein? La victoire de la puissance de vie, de la puissance d'amour sur toutes les puissances de mal, de ténèbres, de mort qu'évoque la croix. La croix évoque toute la puissance de ténèbres, de mal, de mort, de non-vie. Voyez ? La résurrection, eh bien, elle évoque cette surpuissance de la vie sur toutes ces puissances bien réelles de mal de mort qu'évoque la croix. Et donc, nous regardons la croix à la lumière de Pâques, parce que cette croix, parce qu'il s'y est vécu avec le Christ, il faut bien mettre ça avec cette croix, par ce qui s'y est vécu avec le Christ, devient signe d'un passage. Et figurez-vous, c'est pourquoi chaque 14 septembre, nous célébrons avec l'Église entière la fête de la croix glorieuse. On ne célèbre pas le dolorisme. Hein. Non, non. On célèbre la fête de la croix glorieuse. Parce que par ce qui s'y est vécu avec le Christ, cette croix devient signe, j'ai envie de dire, de l'échec de ce qu'elle signifie pour le malin. Vous comprenez ? Par ce qui s'y est vécu avec le Christ, cette croix devient signe de l'échec de ce qu'elle signifie, cette croix, pour le malin. Pour le malin, cette croix signifie clouer définitivement la vie. Parce qu'ici est vécu avec le Christ, qui en effet va mourir et ressusciter, eh bien, cette croix devient le signe de l'échec de ce qu'elle signifie pour le malin. Et du coup, elle devient glorieuse. Ça va ? Plus ou moins. Mais voyez, c'est ça. Que veut le malin en crucifiant Jésus sur la croix ? Eh bien, c'est qu'on n'en parle plus, hein. C'est que ce soit fini. Et puis quand on va le mettre au tombeau, on roule une belle grosse pierre comme ça. Voilà. C'est fini avec celui-là. Eh bien non, la résurrection met en échec la croix du malin. Pour le dire autrement. Enfin, je dis la même chose. Vous voyez ? C'est fondamental. C'est fondamental. C'est pas du dolorisme quand nous allons nous signer du signe de la croix. C'est pas du dolorisme quand nous allons célébrer la croix glorieuse. D'ailleurs, on la fleurit souvent quand on la célèbre glorieuse. 14 septembre. Voilà. Parce qu'ici est vécu avec le Christ dans le mystère pascal qui comprend mort et résurrection, qui est complet, on ne parle pas de trois mystères pascal ou de deux mystères pascal, il n'y en a que un, le mystère pascal, mais il est complet, il reprend le vendredi saint jusqu'au matin de Pâques, il faut bien tout garder ensemble. Si on saucissonne le truc, on devient comme les disciples d'Emmaüs. C'est pas grave, hein, le ressuscité nous rejoint, il fait son chemin avec nous aussi, hein, et nous prend de toute façon là où nous sommes, le Christ. Mais prenons l'ensemble du mystère, Pascal. Et alors là, par la résurrection, la croix est mise en échec pour le malin, et donc elle devient en effet signe de la gloire. Et glorieuse. Bon, si c'est pas clair, c'est pas grave, on a toute la vie pour que ça clarifie, et pour moi aussi, même si ça me parle. Hein. Voilà. Donc elle devient glorieuse. Mais bien sûr, ce n'est qu'avec les lunettes de Pâques que l'on peut faire ce chemin-là. Et ce n'est donc que dans un certain regard de foi qu'on peut accueillir cela. Hein? Que la croix peut être transfigurée aussi, donc, dans chacune de nos vies. Dans chacun de nos chemins. La croix nous marque tous d'une manière ou d'une autre. Elle marque chaque être humain. Mais si l'être humain que je suis pouvait garder en permanence un œil orienté vers le tombeau ouvert du matin de Pâques, lorsqu'il regarde la dureté de la croix qu'il vit, alors oui, nous entrons dans ce chemin-là. Et peu à peu, nous accueillons cette croix, comme le Christ a accueilli la sienne, qu'il n'a pas choisie non plus. Bien souvent dans nos vies, nos croix, on ne les a pas choisies. Le Christ n'a pas choisi la sienne. Il l'a accueilli. Voyez, il l'a, pour le dire autrement, accueilli, il l'a embrassé. Embrasser, c'est pas faire des bisous pour dire je t'aime, hein, croix. Non, non, on a bien compris, hein. On n'est pas dans le dolorisme. Hein. Mais embrasser, c'est prendre dans ses bras. C'est ça, c'est embrasser. Et le Christ a embrassé la croix qu'il n'a pas choisie. Le Christ savait que cette croix serait passage et non finalité. Il savait. Il a annoncé ça à ses disciples à plus d'une reprise. Le disciple le sait aussi, puisque Jésus le lui a annoncé. Et que Jésus, à un moment donné, leur a dit, « Là où je suis, je veux que vous soyez aussi. » Ça veut dire que, voilà, ce chemin de résurrection, il n'est pas que pour le Christ. Il est aussi pour nous. Il est aussi pour les hommes. Voyez. Vous vous rappelez quand j'ai parlé du baptême, je ne sais plus quel jour, mercredi, comme si on est, je ne sais plus si c'est ici que je l'ai dit, mais c'est pas grave, comme si on est sur le dos d'un dauphin. Vous avez parlé de ça? Ah, oh, merci, c'est ici. Comme si on est sur le dos d'un dauphin. Et voilà. Et puis, on suit le mouvement du dauphin. Oui. C'est ça. On est branché. On est la branche accrochée au tronc, qu'est le Christ. Et ce qui lui arrive, entre guillemets, hein, mais m'arrive. La croix, il l'a vécu. C'est pas une fin, c'est un passage. Il m'invite à vivre la réalité de mes croix, en ce compris celle de ma mort un jour. Elle arrivera. Hein? Eh bien, dans ce même esprit, peu à peu, alors lui il est Dieu, vous allez dire, ben oui, mais il nous aide à grandir, à poser un regard plus complet. Vous voyez, ça j'aime bien, à poser un regard plus complet sur la réalité de ce qu'on vit comme chrétien. À poser un regard plus complet. Sur la réalité de ce que l'on vit comme chrétien. Alors, voyez, si la croix, à la lumière de Pâques, devient le signe de la victoire de la vie, hein? Sur les forces de mort, ça veut dire qu'il y en a un qui n'aime pas du tout la croix et qui a la croix en horreur. C'est le diable. Voilà. Vous l'avez dit, c'est le diable, c'est le malin. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il voulait clouer la vie définitivement sur la croix. Et cette croix, avec ce qui s'est vécu par Jésus, eh bien, met en échec la croix du malin. Et du coup, le malin a en horreur la croix. Il ne sait pas la piffer, comme on dit. Hein? Parce que elle est devenue le signe de son échec. Comprenez? Voilà, c'est ça. Et vous voyez, Bernadette, qui était toute en frayeur et angoissée, alors que le ciel vient la visiter. Mais qu'est-ce qui vient mettre une frayeur ou une angoisse si ce n'est pas ce qui voudrait peut-être l'éloigner du ciel qui est en train de la visiter? Quand je l'eus fait, je fus tranquille. Le malin recule devant la croix. Voyez. Il recule devant ce signe. Donc, ne soyons pas avares de ce signe dans nos vies. Hein? La croix, c'est quelque chose de très puissant. Rappelez-vous Pardonnez-moi de faire encore une petite parenthèse avec le livre de l'Exode. Le livre de l'Exode, dans le livre de l'Exode, à un moment donné, Pharaon essaye toujours de rattraper le peuple hébreu là qui lui échappe. Hein. Et puis, à un moment donné, au moment où il y a cette traversée de la mer Rouge, hein, à un moment donné, Pharaon se rend compte qu'il y a quelque chose où il ne va pas pouvoir résister. Jusqu'à présent, il l'a emporté sur le peuple hébreu. Et puis à un moment donné, il va dire cette parole-ci, vous irez retrouver dans le livre de l'Exode. Hein. Fuyons devant Israël, car c'est Yahvé qui combat pour eux, contre nous. Fuyons, c'est bien la première fois hein, que Pharaon, voilà, quand Yahvé intervient, fuyons devant Israël, car c'est Yahvé qui intervient pour eux, contre nous. Tant que nous, nous nous débattons en croyant qu'on est plus fort que le malin, eh bien, on se trompe. Quand le Seigneur vient lui-même combattre, là, le malin fuit. Signez-vous du signe de la croix, le malin fuit. Parce que c'est là, sur cette croix, eh bien, qu'il a combattu définitivement la puissance de mal et de mort. Et en même temps, dans chaque Notre Père, on doit encore demander au Seigneur, délivre-nous du mal. Ben oui, c'est vrai. Et c'est pas incohérent. Mais je sais pas vous le développer si vous venez suivre une retraite fondamentale. Mais ici, je n'ai pas le temps suffisant pour creuser ça. Hein? Mais c'est pas incohérent. Lorsque le signe de la croix est donc vécu dans une foi profonde, voyez, non pas de façon superstitieuse, mais dans ce regard de la foi pascale dont on vient de parler, ce signe devient donc une armure, un bouclier imparable pour s'opposer au mal dans le combat de la foi. Le mal et le malin veut supprimer la vie. Il s'y prend de 36 façons. Hein. Dieu bénit. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit de la bénédiction? Faire le don de la vie et de la fécondité. Est-ce que vous avez déjà vu une bénédiction qui a lieu sans un signe de croix? Signe de croix accompagne toute bénédiction. Ce signe de croix est signe de vie donnée, est signe de, voilà, d'une fécondité donnée, au-delà de toutes les puissances de mort. Et c'est pourquoi il est une armure. Une armure. Et c'est pourquoi eh bien, il nous faut bénir aussi. Il n'y a pas que Dieu qui bénit, nous on peut aussi bénir. Voilà, c'est pas réservé. Cette image d'une armure et cette image d'un combat, eh bien, je la reprends vraiment à Saint Paul, parce que Saint Paul nous parle du combat de la foi. C'est important. La foi, c'est pas un long fleuve tranquille. La foi, c'est une relation. C'est une relation. Et une relation, ça vit. Une relation, il y a des hauts et des bas. Une relation, il y a des interférences qui viennent. Il y a le malin qui va venir toujours vouloir nous abîmer cette relation, etc. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, le verset 10, nous écoutons Saint Paul qui nous parle de nous équiper pour vivre le chemin de la foi avec tous les combats qu'il peut y avoir. Voyez ? Et il nous dit ceci, armez-vous de force dans le Seigneur, de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Voilà. Il faut revêtir l'armure de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un combat quoi, quand on est chrétien. C'est pas normal qu'on vive un combat quand on est chrétien. Parce que parfois, moi je rencontre des chrétiens qui disent, je vis un combat, mais est-ce que j'ai pas assez de foi? Mais non! Ce n'est pas anormal de vivre des combats quand on est chrétien. Ben oui. Puisqu'il y en a un qui n'aime pas ça. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde de ténèbres. Ne te crois pas plus fort. Ce n'est pas à égalité pour te battre avec le malin. Voyez, ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés. Non, non. Et tant que tu vas croire que tu vas toi-même t'en sortir tout seul, ben oui, tu découvriras que tu as trop peu de force. Nous avons affaire aux dominateurs de ce monde de ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Alors du coup, saint Paul, qui encourage ses frères, saisissez donc l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout. Marie et cette femme debout dans l'attente de la résurrection le samedi. Que vous puissiez, nous dit Paul, demeurer debout. La croix te mine, la croix te marque, et c'est normal qu'elle te marque. Il n'y a pas une croix qui ne marque pas. Il n'y a pas des croix à l'eau de rose. Non, elle te marque, elle te mine. Voilà. Revêt-toi aussi. Ne te laisse pas aller avec cette croix-là, en plus de la croix que le malin va vouloir te mettre en plus de la croix de ta maladie, qui est par exemple le découragement. Ce malin, il est fort pour nous mettre d'autres croix. Hein. Revêt-toi de l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, mais oui, il y aura des jours mauvais. Moi, ça me console hein, quand je lis ça, franchement. Il y a des jours mauvais. Le chrétien, c'est pas celui où tout est rose tous les jours. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil. Non, c'est pas ça. Le chrétien vit les deux pieds bien sur terre. Bien sur terre. Et quand on vit les deux pieds bien sur terre, il y a des moments, il y a des combats, il y a des moments, il y a des jours mauvais. Et bien voilà, il y a des jours mauvais. Et bien pour qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Ah voilà, la dimension de l'homme, mettre en œuvre quelque chose, voilà, mettre en œuvre, ben voilà, moi par exemple j'ai mis en œuvre quoi, ben, j'ai mis ma chaîne avec ma croix là, et puis la Sainte Vierge ce matin quand je me suis levé, ben, voilà, et c'est pas magique, hein, c'est pas magique, mais c'est mettre en œuvre, je m'habille avec une chemise, c'est pas magique non plus, hein, mais non, je mets en œuvre ce qui m'est nécessaire pour avancer, eh bien, avant de mettre ma chemise, mais il y a ma croix, et puis la Sainte Vierge, ben c'est ma mère, enfin c'est la vôtre aussi. Père Édouard, il nous a remis lundi une médaille de la Vierge miraculeuse à chacun. Mettre en œuvre. Ben, j'ai aussi envie de m'habiller un peu du Christ. Comme baptisé, je l'ai quand même revêtu d'une certaine manière, et puis j'ai encore du chemin pour le revêtir comme nous tous. Et donc, voilà, je le réveille. Ah, et puis, je m'équipe aussi de mon chapelet. Ah, comme Bernadette, ça lui a servi, tiens. Hein? Ça lui a servi. Voilà, hein? Pour qu'au moment mauvais de ces crises d'angoisse, eh bien, elle puisse, voilà, ayant tout mis en œuvre, dit-il. Et puis alors, en avant, debout donc, à la taille, la vérité pour ceinturon. Rappelez-vous la Samaritaine
les adorateurs que cherche le Père en esprit et vérité. À la taille, la vérité pour ceinturon. Avec la justice pour cuirasse. Et comme chaussure aux pieds, à votre avis ? Le zèle. Voilà. Comme chaussure aux pieds, je vais le dire comme il le dit ici, hein, l'élan pour annoncer l'évangile. Voilà. L'élan pour annoncer l'évangile de la paix. C'est l'évangile de la paix. Hein. Prenez surtout. Ah, ça c'est important s'il dit surtout. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Bon, c'est presque une bande dessinée. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'Esprit, l'Esprit Saint. C'est-à-dire la parole de Dieu, cette parole plus tranchante. Hein, oui, le glaive de l'Esprit, et c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà. Paul nous parle de cette réalité bien concrète, on va le dire comme le disent des saints, etc., du combat spirituel, hein, combat spirituel, le combat de la foi, le combat de la vie chrétienne, en fait, c'est ça. Et il y a une armure, et puis là, il nous donne des tuyaux, donc je vous redis pour ceux qui voudront aller relire ça à leur aise, hein, Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 et suivants. Eh bien, peut-être qu'à la base de toute cette armure, il y a le signe de la croix. Et vous savez que là, je dois faire un discernement rapide sur ce que je ne vous dirai pas. Pas que j'ai pas envie de vous le dire, mais l'heure tourne. Voilà. Oui, je crois que j'ai discerné. Vous savez que Bernadette, elle est entrée chez les sœurs à Nevers. Hein? Plus tard, là, après les événements, des apparitions, etc. Et puis alors elle a raconté une fois, comme ça c'était entendu, hein, son histoire, pour qu'on ne l'interroge pas tout le temps non plus, comme ça. Et puis alors, un jour, il y a une sœur qui lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sûr d'aller au ciel? Puisque Bernadette, la dame, lui avait dit, je ne vous promets pas le bonheur dans ce monde, mais dans l'autre. Donc, sous-entendu, elle avait le laissé passer, quoi. Hein? Elle savait que, voilà. Et du coup, la sœur interroge Bernadette, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être sûr d'aller au ciel? Vous savez la réponse de Bernadette? Je vous l'ai dit. Déjà bien faire son signe de la croix, c'est beaucoup. Ah oui, mais déjà bien faire, pas déjà faire, déjà bien faire son signe de la croix, c'est déjà beaucoup. Bien faire, c'est avec tout ce qu'il y a derrière ce signe, voyez. Bien faire, c'est se revêtir du casque du salut en se signant de la croix, avec tout ce qui s'y est vécu par et avec le Christ, comme signature de l'échec de ce qui vient nous détruire le ciel. Voyez ? Déjà, bien faire son signe de la croix, C'est déjà beaucoup. Elle aura dû peut-être être un peu déçue, la sœur, je ne sais pas. Elle s'attendait peut-être à une grande révélation, je ne sais pas laquelle. Voilà. De Bernadette, on disait d'elle que lorsqu'elle se signait, c'est comme si elle se revêtait d'un vêtement. Alors nous autres, on pourrait se poser la question, combien de fois on se signe par jour? Bon, j'espère quelques fois quand même. Bon, on pourrait commencer la journée comme ça, par exemple, et la terminer comme ça aussi. Et puis, pendant la journée aussi. Et puis, parfois, on a le temps de se signer, bien. Et puis parfois, un petit signe un peu rapide, comme ça. Je ne sais pas. Mais, est-ce que nous habitons ce signe dont nous signons? J'ai peut-être mis un nous entre. Hein? Est-ce que nous habitons ce signe dont nous signons si souvent? C'est important. Vous voyez, c'est le signe. Mais c'est, voilà, je repense à une anecdote, mais c'est pas grave. Je vais vous la raconter quand même. Donc je suis responsable du foyer de charité à Spa depuis 9 ans, mais avant ça j'étais prêtre en paroisse à Bruxelles, dans la commune de Jette. Et dans la commune de Jette, il y a une paroisse, Saint-Joseph, une des quatre paroisses là, de l'unité pastorale. Et puis nous étions là, en train de célébrer le Vendredi Saint. Et le Vendredi Saint, et la célébration du soir. 20h, que célébrons-nous à 20h? La passion du Christ et la vénération de la croix, de la Sainte Croix. On ne vénère pas le crucifix là, on vénère, hein, le titre de la célébration, de la Sainte, vénération de la croix, la Sainte Croix et la célébration de la passion. Eh bien, ce jour-là, les paroissiens avaient décroché, comme chaque année, le crucifix qui était derrière l'autel sur le mur pour le déposer devant pour le moment de la vénération des paroissiens. Hein? C'est aussi l'occasion de le dépoussiérer. Une fois par an, c'est bien. Ben oui, c'est plus facile. Hein? Mais il était là, donc propre, hein, et tout ça. Déposé, appuyé sur le bord de l'autel. Et puis la célébration se vit, etc. L'homélie, le petit mot, se passe. Elle est courte ce jour-là. Et puis, tout à coup, quand on est tous assis, on entend... Cette croix, en fait... Moi, j'étais assis comme vous, hein, j'étais côté du célébrant, et puis voilà, hein, un peu comme... Voilà. Et cette croix, elle a viré sur la gauche, complètement. Alors qu'elle était grande et lourde, c'est vrai, elle s'est fracassée, il y a le petit côté de la croix qui s'est un peu déchaussé, du coup, ça a fait sauter le Christ qui était dessus, et moi qui croyais que ce Jésus était un Jésus en bois, que je trouvais très beau, j'ai découvert qu'il était en plâtre. Et on a entendu dans l'assemblée, oh! Et puis 3-4 paroissiennes se sont levées plus vite que les paroissiens. Hein? 3-4 paroissiennes qui sont venues accourir, ils ont ramassé les morceaux de Jésus qu'ils ont mis le long de l'autel. Alors, un homme ou l'autre sont venus redresser un peu la croix aussi, un peu repousser le petit côté là, hein, et puis remettre la croix. J'étais avec un confrère, on était à deux pour présider cette célébration. Eh bien, cet incident m'a fait comprendre ce que nous vénérons le Vendredi Saint, la vénération de la croix. Voyez ? de la croix qui ne retient pas le mort sur elle. J'ai compris ça, ce jour-là. Je n'avais jamais compris comme ça. Et vous savez, il restait un crochet métallique à présenter à la vénération des paroissiens et la poussière qu'on n'avait pas su prendre, qui était entre le Christ et la croix. Mais c'est ça. C'était ça. C'était ça qui s'est vécu. Et avec mon confrère, on est allé au moment de la vénération de la croix, ben on n'avait plus de crucifix à présenter, si vous voulez. Il n'y avait plus de Jésus dessus. On a tenu chacun le côté de cette croix. Et je peux vous dire que les paroissiens m'ont fait grandir dans ma foi. Parce que si j'ai compris un peu mieux pour moi le sens de cette célébration de vénération de la croix comme passage, comme je viens de vous le dire tantôt, en tant que passage et non pas finalité qui retient la mort sur elle, en tant que passage, c'est parce que alors qu'il n'y avait plus qu'une croix un peu comme je vous l'ai décrite à présenter, la manière dont les paroissiens sont venus vénérer cette croix, la profondeur de cette vénération alors qu'il n'y avait plus Jésus dessus, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé. Je crois que c'est à cette célébration-là que j'ai compris quelque chose d'important dans le fait que la croix, nous la vénérons comme glorieuse parce qu'elle est passage. C'est vrai que déjà le vendredi, la croix n'a pas retenu la mort sur elle puisque le corps de Jésus était descendu, hein. Et puis il a été mis au tombeau, là où on doit aussi enfermer la mort, si vous le voulez, hein, dans le tombeau. Mais au matin de Pâques, ça a été quelque part la même chose. Ce qui devait maintenir la mort en son sein, un tombeau, ne l'a pas maintenu. Ne l'a pas maintenu. Et je remercie ces paroissiens de cette paroisse. M'ont fait grandir. Dans la vie de l'Église, on est tous appelés à se faire grandir les uns des autres. Et bien, j'ai grandi là. C'était assez impressionnant. Ces gens, pour moi en tout cas, après, évidemment, je n'étais pas dans les intentions qu'ils y mettaient, mais la lecture que j'en ai faite, eh bien, vénérer la croix pour le signe qu'elle est. Passage vers la vie. Passage douloureux vers la vie. D'accord. Il ne faut pas amoindrir ce qu'a vécu le Christ. Et puisque vit tous ceux qui portent une croix. Mais les passages. Douloureux, certes. Peut conduire à la mort, certes, mais cette croix, traduisons pour nous aujourd'hui, hein, n'est pas prison de la mort. Je vous parle de la croix. Parce que la grande tentation, c'est de la fuir. C'est de la fuir. Alors bien sûr, le Christ ne l'a pas fui la sienne. Il l'a portée, il l'a endossée. Et vous savez, à un moment donné, Même lui a eu besoin d'être aidé à la porter. Et on a réquisitionné pour l'aider à la porter un certain Simon de Cyrène. Il y a des moments où la croix dans nos vies, à nos yeux, à nos forces personnelles, est trop lourde. Et c'est vrai. Mais regardons Jésus, regardons Simon de Cyrène. Suscitons des Simon de Cyrène autour de nous. Ou quand il y en a qui se présentent, ayons l'humilité de les accepter. C'est pas facile d'accepter qu'un autre m'aide à porter ma croix. Parce que il y a toujours cet orgueil humain qui nous colle à la peau. Voilà. Et donc c'est un chemin de vie que de s'en défaire progressivement. Alors regardons le Christ. Il ne s'est pas senti humilié de devoir être aidé de Simon. Sachons accueillir ces Simon de Cyrène que la vie met parfois sur nos routes aussi. Et puis sachons aussi, peut-être, oui, sûrement même, j'enlève le peut-être, sachons aussi les solliciter. Et puis à un moment donné, eh bien c'est nous qui serons Simon de Cyrène pour quelqu'un. Je suis sûr que dans chacun de nos chemins de vie, un jour, nous avons été ou nous serons Simon de Cyrène pour quelqu'un. Et un jour, nous avons été ou nous serons à avoir besoin d'être portés aussi. Parce que la croix est peut-être un peu lourde pour nous, ou beaucoup lourde, trop lourde. Voilà. Faut pas la chercher, la croix, je l'ai déjà dit. Pas la chercher la souffrance, il faut même la combattre. Il faut même la combattre, la souffrance. Et s'il y a des possibilités pour combattre la souffrance, afin de pouvoir au mieux, vivre son chemin de vie jusqu'au bout, bien, il faut pouvoir le faire, bien sûr. Mais en même temps, de pouvoir embrasser ce que nous avons à vivre. J'espère que ce que je vous dis, je le vivrai le jour où on m'annoncera peut-être un cancer en phase terminale. J'espère vraiment, et je vous demande de prier pour ça. Pour que je puisse vivre ce que je suis en train de nous dire. Voilà. Sans fuir. Comme c'est tellement possible. Et au bout de ce chemin, mais regardons le Christ, au bout de ce chemin, d'une façon qui nous dépasse, mystérieuse, il y a un surcroît de fécondité. Un surcroît de fécondité. C'est ce que nous allons célébrer demain, la résurrection. Un surcroît de fécondité. Vous savez, j'ai été à des funérailles lundi d'un confrère à Verviers et à un moment donné, de là où j'étais, on était nombreux, donc j'étais un peu sur le côté, je voyais un peu, voilà. Et de là où j'étais, dans l'axe, à un moment donné, j'ouvre les yeux pendant le défilé d'offrande. Bon, j'étais assis là, à ma place, et puis j'ai vu un tableau que je n'oublierai pas. trouvé ça fantastique. Pour moi, c'est le cadeau reçu à cette célébration-là. Voilà. Je voyais bien sûr le cercueil de mon confrère. Là, je le voyais dans le sens allongé, puisque j'étais comme si j'étais assis sur le côté, là. Donc je voyais allongé. Et puis, sur le pilier qui était à gauche, je voyais cette grande croix, massive, avec un Jésus douloureux. Vous savez, il y a parfois des croix avec le Christ glorieux. Je les aime beaucoup, ces croix-là. Mais ici, j'ai aimé cette croix-là avec un Christ douloureux, un Christ de la passion. Voilà. Il y avait cette croix. Elle était à mi-hauteur du pilier, donc assez haute. Et puis plus bas, il y avait dans mon champ de vision le cercueil de mon confrère. Et puis, à même distance que entre la croix et le cercueil, eh bien, au-dessus des marches qui amenaient à l'autel, mais c'était la même distance, c'était équilibré. Il y avait le cierge pascal. Ah ben voilà. La mort de Jean, mon confrère, passage. Ça a été lié, ça a été relié, c'est photographié dans mon esprit, hein, pas pris une photo évidemment, photographié. Cette croix douloureuse, c'est la réalité ça, c'est la réalité de la vie, ça ne faut pas la fuir cette réalité-là. Au terme d'une maladie, voilà, longue. Et puis je voyais ce cercueil presque comme un bateau qui avançait, là, il était statique évidemment, hein, vers la résurrection, en route de la croix à la résurrection. Ah ben. Je ne sais plus ce que le célébrant a dit dans son homélie, mais cette image-là, ça valait l'homélie pour moi. Vous voyez? Donc c'est très... voilà. Mais ce soir, c'est vraiment ce regard un peu différent, peut-être, par rapport à la croix, à sa place juste dans l'horizon de notre foi, que j'ai voulu remettre un peu à l'honneur. Signez-vous. Oh ben voilà, signez-vous. Je crois que j'ai un texte et j'ai juste le temps de le lire si je le retrouve. C'est pas gagné. Voilà. Romano Guardini. Faire le signe de la croix. On terminera là-dessus. Peut-être qu'alors, après ça, il y aura un petit moment de silence, un petit chant, ou je ne sais pas, hein, qui vous inspire, l'équipe des chants, et puis les annonces du Père Édouard, la bénédiction, et puis nous serons en chemin. Mais donc, je vais me taire après cette citation de Romano Guardini, qu'on accueille un peu un silence, et puis il y aura le chant qui va venir clôturer. Faire le signe de la croix. Vous faites le signe de la croix. Faites-le bien. Pas de geste estropié, hâté, qui n'ait plus aucun sens. Non. Faites un signe de la croix, un vrai, lent, large, du front à la poitrine, d'une épaule à l'autre. Sentez-vous comme ce geste vous enveloppe? Recueillez-vous. Rassemblez dans ce signe toutes vos pensées et tout votre cœur. Vous sentirez alors combien il vous saisit, vous sauve vous sanctifie. Pourquoi? C'est le signe du tout, de la rédemption. Sur la croix, Jésus sauve l'humanité entière. Par elle, il sanctifie tous les hommes jusqu'au plus profond de leur être. Ainsi faisons-nous le signe de la croix avant la prière pour que, étouffant les bruits, il nous prépare et nous saisisse tout entier, cœur, imagination, volonté. Après la prière, afin que demeurent en nous les grâces reçues. Dans la tentation, pour qu'il nous fortifie. Dans le danger, pour qu'il nous protège. Pour bénir, afin que la plénitude de la vie divine pénètre l'âme, féconde et sacre toutes ses puissances. Pensez-y quand vous faites le signe de la croix. Parmi les symboles, aucun n'est plus saint. Faites-le bien, lent, large, avec attention. Il enveloppera ainsi tout votre être, intérieur et extérieur, pensée et vouloir, cœur et sens, tout. Il le fortifiera, le signera, le sanctifiera par la force du Christ au nom du Dieu en trois personnes.
c'est pas.